Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Aliette Ovine, Cédric Fuentes et Louis Drillon. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Emmanuel Morse-Duncan.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Deuxième jour de notre série consacrée aux femmes dans l'économie. Hier, nous avons exploré l'univers très masculin du numérique, dominé par la culture geek et les stéréotypes de genre. Aujourd'hui, c'est l'histoire des femmes au travail que nous allons retracer depuis le 19e siècle. Pour l'anthropologue Françoise Héritier, les deux piliers de la domination masculine résident dans le contrôle social de la fécondité des femmes et dans la division du travail entre les deux sexes. Une division qui a eu longtemps pour effet de cantonner les femmes à la sphère domestique et d'occulter un travail pourtant bien réel dans les champs, les boutiques et les ateliers. Il est 14h sur France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons relater cette histoire longtemps éclipsée par une historiographie écrite au masculin en compagnie de Margaret Marouani, sociologue, directrice de recherche au CNRS et autrice avec Monique Méron d'Un siècle de travail des femmes en France 1901-2011, paru aux éditions de La Découverte. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade.
La première conclusion que j'en tire, c'est que nous nous faisons des illusions. Nous disons que les femmes se sont mises au travail, or ça n'est pas vrai. Les femmes ont toujours travaillé. Quand nous pensons aux femmes du passé, nous pensons à une plure de privilégiés qui ne faisaient rien, qui étaient des aristocrates ou des bourgeoises et qui représentaient un 100 millième de la population. Les femmes ont toujours travaillé. Les femmes du XVIIe siècle, au temps de Madame de Sévigné, étaient des paysannes, étaient des artisanes, des commerçantes, des servantes, des femmes qui gagnaient de l'argent, mais qui gagnaient en même temps qu'elles étaient femmes, en même temps qu'elles élevaient leurs enfants et qu'elles tenaient leur maison. Elles gagnaient leur vie avec leurs enfants dans leurs jambes.
Bonjour Margaret Marouani.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en studio avec nous. On entendait la journaliste Ménie Grégoire sur France Inter en 1965. Les femmes ont toujours travaillé, nous dit-elle, mais ce qui a peut-être varié, c'est à la fois le statut et la visibilité du travail des femmes.
Absolument. Ménie Grégoire a totalement raison. Les femmes ont toujours travaillé, toujours et partout. Toute la question est de savoir quand ou comment ce travail a-t-il été connu, reconnu, rémunéré. Il existe encore de par le monde des millions de femmes qui travaillent dans les champs, dans les commerces, et qui ne sont pas rémunérées, qui travaillent comme domestiques, qui ne sont pas rémunérées. Donc, toute la question, c'est en effet celle de la visibilité et celle de la rémunération. C'est l'historienne Michel Perrault qui dit ça très justement, qui le rappelle régulièrement. Les femmes ont toujours travaillé, oui, mais depuis quand sont-elles payées ?
Parce que c'est notamment l'explosion du salariat à partir des années 60 qui a rendu le travail des femmes beaucoup plus visible. Il y avait du salariat au 19e siècle, mais c'était encore dans des proportions bien inférieures.
Tout à fait, tout à fait. C'est en effet les années 1960 qui ont, avec l'avènement du salariat massif, qui a rendu le travail des femmes en France et un peu partout en Europe et aussi aux États-Unis, qui l'a rendu incontestable, visible, incontestable. Mais pour autant, l'idée que le travail des femmes aurait commencé dans les années 60, là c'est faux, archi faux. Les femmes en France ont toujours travaillé, toujours, toujours, toujours. Les formes de ce travail ont varié, bien entendu, et pendant longtemps, nombre d'entre elles n'étaient pas reconnues comme des travailleuses.
Alors on va y revenir évidemment, mais commençons notre histoire en plein milieu de la révolution industrielle, au 19e siècle. La domestique, la couturière, l'ouvrière du textile constituent alors les archétypes du travail féminin. Quels sont les discours qui sont véhiculés à cette époque-là sur le travail des femmes et quelles sont les représentations qui les accompagnent, Margaret Marouani ?
Écoutez, c'est difficile à dire parce qu'on n'avait pas à l'époque l'appareil statistique dont nous disposons aujourd'hui, mais tout de même les recensements de la fin du 19e siècle indiquent bien qu'on ne sait pas trop compter le travail des femmes. Parce qu'en effet, toutes ces femmes qui travaillaient au champ, qui travaillaient sous les étoffes, souvent chez elles, à domicile, le travail à domicile, le travail dans les champs, il était pour partie visible, pour partie invisible. Et c'est vrai que nous nous sommes rendus compte avec Monique Moron, quand nous avons travaillé sur le XXe siècle, à partir des recensements de la population, à partir de 1901, que il y a bien à chaque fois une sorte d'incertitude autour de qu'appelle-t-on travail pour une femme ? Qui n'est pas la même question pour un homme. Un homme qui est sur un établissement agricole, dans une ferme, c'est un agriculteur forcément. Une femme, parfois oui, parfois non.
Et alors justement, vous parlez de statistiques, Margaret Marouani, durant la première moitié du XXe siècle, on va essayer de distinguer au sein de la sphère domestique le travail marchand du non-marchand, pour essayer de recenser la population active.
Oui, oui, mais ça, la population active, elle est recensée depuis le début du siècle. Hein. Et par exemple, il faut avoir en tête que au début du XXe siècle, en 1901, les femmes en France travaillaient tout autant qu'en 1962, au recensement de 1962. Donc, il y a une grande constance dans le travail des femmes en France.
Ça représentait un tiers de la population active.
Un tiers de la population active totale. Donc, c'était pas, on ne part pas de rien. Et encore, on dit un tiers de la population pour ce qui était compté, recensé, avec ce bémol que je mets, qu'il faut mettre, qui sont inscrits dans tous les grands livres statistiques des recensements. Il y a cette perplexité des statisticiens qui disent on ne sait pas comment compter le travail du sexe féminin. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons depuis si longtemps des statistiques de population active sexuée. Parce que, comme on ne sait pas comment vraiment compter le travail du sexe féminin, comme c'est dit, alors on met colonne de gauche le travail des hommes, colonne de droite le travail des femmes. Enfin, l'activité, je devrais dire. Parce que l'activité masculine, ça on sait ce que c'est. L'activité féminine, ça on ne sait pas trop. Donc, on les distingue pour justement mettre d'un côté ce qui est sûr, de l'autre côté ce qui n'est pas sûr. Et nous, il nous reste, ça c'est quelque chose, malheur est bon, voilà, nous avons des statistiques sexuées sur la population active, au moins depuis le début du XXe siècle.
Ce qui permet d'en faire d'autres usages par ailleurs. Voilà. Alors je voudrais qu'on s'arrête un instant, Margaret Marouani, sur le statut, le travail de domestique. Alors évidemment, le fait de placer des jeunes filles comme domestiques, c'est une pratique ancienne, mais c'est une pratique qui va entrer en crise au tournant du XXe siècle. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là?
Oui, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes femmes étaient, moins jeunes, étaient domestiques. Avec au tournant du siècle, avec la Première Guerre mondiale, ce travail, cette domesticité-là, cette forme de domesticité-là va s'atténuer, disparaître. Pendant la Première Guerre mondiale, on le sait, les femmes sont venues, bon nombre de femmes sont venues travailler dans des usines pour remplacer les hommes qui étaient au front. Elles sont venues travailler notamment dans la métallurgie et notamment, c'est l'histoire que l'on connaît bien, évidemment, celle des munitionnettes qui travaillaient, les ouvrières qui travaillaient dans les usines de munitions.
On va y revenir, mais le travail de domestique, il était plus valorisé que le travail ouvrier, Margaret Marouani, au début du XXe siècle?
C'est bien difficile à dire, parce que le statut des domestiques, il n'était pas si simple. Comment était-il reconnu? Elle touchait souvent des gages plutôt que des salaires. Ce qui veut dire qu'une partie de la rémunération de leur travail, c'était le fait d'être nourrie, logée, blanchie. Donc la question de la rémunération, elle se pose de façon différente.
D'où cette nécessité qui apparaît au début du XXe siècle de professionnaliser le travail de domestique. Oui. Les syndicats, les réformateurs s'y essayent.
C'est ça, tout à fait ça. Vous voyez d'ailleurs la récurrence des choses, parce que ça, nous parlons là du tout début du XXe siècle. Aujourd'hui, on parle du care, mais il s'agit du même sujet. Il s'agit du même sujet, du travail. Alors, des personnes qui sont dans le care, qui s'occupent plus de personnes âgées ou d'enfants que de ménages, encore que, mais il s'agit toujours de services à la personne.
Et de professionnaliser des pratiques qui existent déjà.
Tout à fait. Donc, il y a une vieille histoire quand on dit le care, l'avenir. Attention, non, le care a aussi une histoire qui s'appelle domesticité.
Et alors, je voudrais que l'on entende la sociologue Françoise Battagliola. Elle nous parle justement de ces métiers qui sont attribués aux femmes dans le prolongement de leur aptitude supposément naturelle.
Les travaux qui ont été occupés par les femmes dès le 19e siècle ont été plus concentrés dans des secteurs particuliers qui étaient effectivement perçus comme un prolongement sur des travaux qu'elles faisaient quasiment naturellement dans la famille. Hein, je veux dire, que ça aille de la couture, effectivement, aux soins aux enfants, aux soins aux malades, aux soins aux vieillards, tout ce qui est aussi travail domestique. Du coup, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que ces qualifications, finalement, ces savoir-faire mis en œuvre par les femmes dans ces secteurs ont été très peu reconnus. on fait très peu l'objet d'apprentissage. Enfin, toutes les filles faisaient de la couture à l'école, mais pour autant, ce n'était pas considéré comme l'apprentissage d'un métier. C'était toujours entre deux.
Voilà, les savoir-faire des domestiques dont on a parlé, mais aussi des couturières, étaient peu reconnus au XIXe siècle, Margaret Maroni.
Oui, absolument. Et Françoise Battaghiola pose là une question absolument fondamentale, qui est celle de la valeur sociale du travail. Qu'est-ce qui fait que tel travail, qui demande telle compétence, est reconnu comme une qualification ou pas? Et ça, c'est un problème qui traverse toute l'histoire du travail des femmes, parce que c'est la question que l'on se pose évidemment pour les domestiques de cette période dont Françoise Battaghiola parle, que l'on peut se poser aujourd'hui pour toutes les travailleuses du Caire, mais que l'on a pu se poser, que l'on peut se poser pour les ouvrières, pour les caissières, pour nombre de métiers. Qu'est-ce qui fait que l'on... Au nom de quoi, au nom de qui décrète-t-on que tel travail est pas qualifié et tel autre l'est? Moi, je me souviens, j'ai été très frappée, j'ai fait plusieurs enquêtes dans l'habillement. Des entreprises où la main-d'œuvre classiquement était extrêmement féminine, plus de 90%, les hommes étaient les agents de maîtrise, et ils étaient les coupeurs, ceux qui faisaient la coupe, et les femmes étaient les couturières, celles qui faisaient la couture. Et dans toutes ces entreprises que j'ai pu voir, et c'est comme ça, la coupe était définie comme le travail qualifié, et la couture comme le travail non qualifié. Alors, au nom de quoi, au nom de qui? Moi, je n'ai jamais compris rationnellement pourquoi telle tâche était qualifiée, telle autre n'en était
peut-être
pas.
Parce que certaines étaient dévolues aux hommes et d'autres aux femmes.
Voilà, ça en tout cas, c'était très, très clairement, c'est le fil conducteur. Pour comprendre ce qui faisait qu'un travail était qualifié à un autre nom, c'était de regarder le sexe des travailleurs. Voilà.
Et ce qui est intéressant de souligner ici aussi, c'est de voir que certaines qualités féminines sont considérées comme justement spécifiquement féminines. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que toutes les couturières n'avaient pas le même statut ou les mêmes conditions de travail et la même reconnaissance sociale.
C'est ça. Alors ça, c'est quelque chose que Madeleine Guilbert avait vu avant tout le monde. Madeleine Guilbert, dans son livre qui est paru en 1966, les fonctions des femmes dans l'industrie, elle a très bien montré, la première, et nous, derrière, nous sommes engouffrés sur ces traces, comment, dans l'industrie, on utilisait les savoir-faire acquis par les femmes dans la sphère familiale pour les utiliser dans l'industrie sans les reconnaître comme des qualifications, puisque c'était des choses qu'elles avaient apprises dans la sphère domestique, donc c'était naturel chez elles, ce n'était pas de la qualification, ce n'était pas de la compétence. Et ça, elle cite des entretiens de responsables du personnel qui disent, mais non, là elle fait ça comme elle ferait sa vaisselle. Et notamment, elle a bien montré cette capacité qu'ont les femmes à faire plusieurs choses en même temps. On surveille les enfants, en même temps on fait la cuisine, on fait un peu de couture. Voilà. Et donc, en usine...
C'est une capacité, mais c'est pas un construit social. Enfin, c'est considéré comme tel.
C'est une capacité, c'est un savoir-faire, ce n'est pas une qualification. Parce que ce qui est connu, ce qui est reconnu, ce qui est rémunéré, ce qui entre dans les grilles de classification, ce sont les qualifications. Or, tant qu'on n'est pas reconnu comme qualification, eh bien, c'est du travail non qualifié, moins bien payé.
Et en même temps, dès 1892, Margaret Maroni, il y a un syndicat de l'aiguille qui est créé. Il y a une volonté de protéger les couturières et peut-être d'abord la moralité, puisque c'est une question qui se pose beaucoup à la fin du 19e siècle.
Tout à fait.
Alors justement, sur cette question d'une distinction dans l'instruction primaire, l'instruction primaire qui est rendue obligatoire par la loi de 1882, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des enseignements qui sont largement communs aux deux sexes, sauf en ce qui concerne les travaux manuels. Là, on voit une distinction très très claire qui s'opère.
Oui, qui s'opère dès l'école, entre les enseignements dispensés pour les filles et ceux pour les garçons. Les filles, on leur apprend à tenir une maison, tout de même.
Et alors, comment réagissent les hommes, Margaret Maroni? Est-ce qu'ils craignent déjà que les femmes ne leur fassent de la concurrence dans l'entreprise? Ils cherchent à défendre leurs prérogatives?
Mais bien sûr, vous savez qu'il y a eu des grèves de femmes au début du 20e, des grèves d'hommes au début du 20e siècle contre l'arrivée des femmes dans leur profession. Typiquement, on n'en a pas parlé, mais c'est dans la typographie. Le syndicat des typographes avait fait des grèves contre l'entrée des femmes dans la profession, parce qu'elles leur faisaient concurrence. Moi-même, j'ai travaillé sur une grève de clavistes dans la dans un grand quotidien régional, qu'elles avaient fait grève pour l'égalité des salaires avec les hommes. C'était une profession qui, à l'époque, était très masculine. Les femmes sont entrées petit peu, et les hommes, c'était dans les années 60, avaient fait grève contre l'arrivée des femmes. Et ensuite, c'était sans cesse une bataille pour préserver le travail qualifié des uns et le travail non qualifié des autres, les femmes. Et c'était une histoire de concurrence.
Vous parliez de reconnaissance, Margaret Marouani. La fin du 19e siècle correspond à une période d'encadrement du travail des femmes, notamment par le biais d'une nouvelle loi en 1892. Je vous propose d'écouter à ce propos la juriste Dominique Roux-Rossi.
1892, une interdiction pour les femmes de travailler la nuit. Bon, c'est les premières lois sociales qui concernent au début les femmes et les enfants. Je fais un grand bond. Vous avez raison de souligner que cette interdiction ne concernait que l'industrie, que par exemple le secteur médical, commerce n'ont jamais été concernés par l'industrie, qu'il y a eu également de nombreuses dérogations possibles. Mais bon, tout cela maintenait quand même une interdiction qui, dans l'ensemble, était respectée dans l'industrie. Il faut également savoir que cette interdiction avait été levée pour les femmes cadres, ou qui exerçaient des responsabilités. Donc, dans quelque secteur qu'elles puissent être, elles n'étaient pas soumises à l'interdiction.
Que peut-on dire, Margaret Marouani, de cette loi de 1892 ?
Alors, c'est une loi, en effet, au départ, de protection des femmes. À une époque où le temps de travail n'était pas les 35 heures, à une époque où le travail de nuit était répandu, c'est une loi de protection. Alors, ensuite, elle a aussi été utilisée comme une loi d'éviction des femmes d'un certain nombre de professions et comme une loi de discrimination.
Et notamment des secteurs les mieux rémunérés.
Oui, oui. Et par exemple, dans cette enquête dont je vous parlais sur un grand quotidien de la presse régionale, les clavistes et les correcteurs, une des raisons qui était invoquée pour expliquer le fait qu'elles gagnaient beaucoup moins qu'eux, leur salaire était très inférieur, c'est qu'elles ne pouvaient pas travailler la nuit. C'était une des raisons. Elles travaillaient jusqu'à 10 heures du soir, et eux jusqu'à minuit. Mais quand ils avaient fini, ils partaient avant. Donc tout le monde partait à peu près au même moment, mais comme le travail de nuit leur était interdit, elles étaient payées moins. C'était une des justifications. Donc cette loi, elle est très compliquée, parce que, en effet, c'est une loi de protection des femmes, c'est une loi de protection du monde du travail en général, parce que, on le sait, le travail de nuit, personne ne s'y habitue, le travail de nuit, il est toujours mauvais pour la santé des femmes comme des hommes. Donc, l'interdire, l'encadrer, le rendre le plus faible possible, qu'il y en ait le moins possible, ça c'est bien. Alors, cela étant, l'interdiction pour les seules femmes, dans les conditions où ça s'est fait, ça les a protégées, et en même temps, ça a été une arme pour justifier des discriminations de toutes sortes.
Et puis c'est aussi un moment où on cherche à protéger la maternité dans un contexte de forte dénatalité. Et un aspect de cette loi qu'il faut peut-être souligner, c'est qu'elle ne s'applique pas aux établissements où ne sont employés que les membres de la famille. Et là aussi, ça a des conséquences sur les femmes.
Bien sûr.
Lesquelles, Margaret Marouani ?
C'est toujours la même chose, c'est sur la santé. C'est sur la santé des femmes. Le travail de nuit, le cycle de sommeil ne se fait jamais au travail de nuit. Il ne s'accoutume pas, au contraire, au fil des ans, ça les ergonomes l'ont très bien montré, il se détériore. Donc le travail de nuit est très mauvais.
Mais il y avait aussi la question de la durée de travail, qui était seulement de 11 heures pour les femmes.
C'est ça.
À ce moment-là, et effectivement, ça ne pouvait pas être appliqué si on avait des employés qui étaient ces employés de famille.
C'est ça.
Alors, quand on évoque l'histoire des femmes au travail, Margaret Marouani, on parle souvent de la Grande Guerre comme d'un tournant pour le travail féminin, vous l'avez cité tout à l'heure. Il s'agit alors de remplacer les 8 millions d'hommes partis au combat. Écoutons d'abord les explications de l'historienne Michèle Perrot.
L'arrivée massive des celles qu'on appelle les munitionnettes, c'est-à-dire celles qui fabriquent les munitions, il y en a quand même 300 000 en France et à peu près autant en Grande-Bretagne, oblige les usines d'ailleurs à accélérer la division du travail et à repenser l'espace de l'usine. Au fond, l'entrée dans les usines de construction mécanique et métallurgique est un processus irréversible. Ça se poursuit entre les deux guerres, dans les usines automobiles taylorisées et sur les chaînes de montage qui sont introduites chez Citroën en 1820. Du coup, les ouvrières se banalisent. Elles poursuivent des carrières plus longues, à peine interrompues par les congés de maternité que la législation commence tout de même à protéger.
La Première Guerre mondiale correspond à une banalisation du métier d'ouvrière, Margaret Maroni.
Oui, c'est-à-dire que à la faveur de la Première Guerre mondiale, on a vu les femmes travailler à des endroits où on n'avait pas l'habitude de les voir. Alors, pour autant, elles ne sortaient pas de l'inactivité. Nombre d'entre elles travaillaient dans d'autres secteurs où il était habituel de les voir travailler.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, on a cette idée qu'elles sont venues, qu'elles ont commencé à travailler.
Voilà, que là a commencé leur travail. Non, beaucoup d'entre elles travaillaient dans autre chose, dans la couture, dans l'habillement. Alors, beaucoup d'entre elles travaillaient à domicile, travail invisible s'il en est. Et donc là, on les voit dans les entreprises métallurgiques, Michel Perrault le raconte très bien, et on les voit, donc la figure de l'ouvrière dans une usine, elle commence à apparaître là.
Tout d'un coup, elles font un travail qui était autrefois associé aux hommes, des tâches autrefois associées aux hommes. Mais ce qu'il faut quand même souligner, Margaret Maroni, c'est que les tâches qu'elles accomplissent, ce sont tout de même les tâches les moins qualifiées. Et même lorsqu'elles accomplissent les mêmes tâches, elles touchent parfois seulement la moitié du salaire
absolument,
des hommes.
Absolument. Le salaire des femmes était défini comme moins important que celui des hommes. Le salaire des hommes était censé servir à nourrir toute une famille. Les femmes, elles, étaient censées toujours avoir un homme à leur côté, un père, un mari, un frère, et donc c'était pas leur argent de poche, mais quand même l'idée du salaire d'appoint revient de loin.
Michel Perrault l'évoquait, c'est aussi un moment où l'État favorise la création d'institutions censées permettre aux ouvrières de concilier travail et maternité. C'est le début de ces questions qui se posent tout d'un coup ouvertement.
Ces questions à se poser, parce que nombre de femmes d'ouvrières, par exemple, laissaient leurs enfants en nourrice à la campagne. Donc, là aussi, l'idée que le travail des mères de famille est quelque chose de nouveau, non. C'est vrai qu'il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, toute une période où il y avait une espèce d'idéologie de la maternité triomphante, où il y avait cette idée que les femmes devaient choisir entre la maternité ou le travail. Mais c'était une période donnée.
Et alors, à la fin de la guerre...
Contrairement à d'autres pays, excusez-moi de vous interrompre, mais par exemple, en Allemagne, ça n'a pas toujours été le cas. En Allemagne, ça n'était pas considéré comme normal, au sens de normes sociales, de laisser garder son enfant. Au début du XXe siècle, ça n'était pas du tout le cas, au milieu du XXe siècle non plus. Et dans l'Allemagne, avant la réunification, en Allemagne de l'Ouest, ça restait quelque chose de pas admis par la société.
Et la question qu'on se pose, Margaret Maroni, c'est est-ce que cette période de la Première Guerre mondiale a été une simple parenthèse, ou est-ce que cela a permis véritablement de mettre sur les rails un travail féminin dans des tâches, encore une fois, qui étaient réservées plus aux hommes?
Oui, alors c'est difficile de répondre à cette question. C'est difficile aussi parce que nous n'avons pas de chiffres, nous ne disposons pas de statistiques sur la période de la guerre. Donc, on ne sait pas combien elles étaient. Il n'y a pas eu de recensement pendant cette période. Pendant les deux guerres mondiales, il n'y a pas eu de recensement. Donc, quand on essaye de refaire l'histoire un peu chiffrée, eh ben, là, on a un trou. On a un trou de 5 années.
Donc on ne sait pas s'il y a eu un recul de l'activité des femmes après la Première Guerre mondiale, par exemple.
Les historiennes ont fait un certain nombre de monographies qui permettent de voir les choses. Mais statistiquement, je ne peux rien vous dire là-dessus. Moi, j'ai un blanc. On sait que, effectivement, un certain nombre de femmes se sont mises à travailler sur des lieux, dans des endroits et sur des métiers qui auparavant leur étaient inconnus. Mais c'est pas la Première Guerre mondiale qui a été le début de l'entrée des femmes dans le monde du travail. C'est faux. Elles y étaient avant, elles y étaient après, elles y étaient pendant.
C'est quelque chose qui a été remis en question par un certain nombre d'historiens dans les années 80. Auparavant, on avait peut-être plus cette vision d'une arrivée véritable des femmes dans le monde du travail au moment de la Première Guerre mondiale. Alors, on va voir comment cette histoire des femmes au travail évolue, notamment au moment de l'entre-deux-guerres et après la Deuxième Guerre mondiale dans un instant.
Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
Moi je travaille autant qu'un garçon, j'ai une situation pour de bon. Oui je travaille autant qu'un garçon. Moi je dépense autant qu'un garçon, puisque je vis jamais tard. Ce n'est pas parce que c'est bien, mais parce que le matin. M'en aller avec qui me plaît et faire ce que j'ai envie à l'endroit que j'ai choisi. Moi je travaille autant qu'un garçon, j'ai une situation pour de bon. Oui, je travaille autant qu'un garçon. Moi je
Je travaille autant qu'un garçon de Dany et nous poursuivons notre histoire des femmes au travail avec Margaret Marouani qui est avec nous en studio. Alors la période de l'entre-deux-guerres, c'est une période pendant laquelle la scolarisation des filles va s'accélérer, Margaret Marouani, en particulier dans l'enseignement primaire supérieur. Alors pour quelles raisons? Parce qu'il y avait un besoin en métier qui exigeait un niveau moyen d'éducation?
Oui, c'est ça. Je pense que ça a été un mouvement vers plus d'instruction, instruire les filles comme les garçons. Donc ça, je crois que ça a participé d'un mouvement un peu général, de montée de l'instruction.
Et il y avait aussi une volonté peut-être des milieux populaires et des petites classes moyennes qu'il fallait deux salaires pour réaliser leur aspiration à la mobilité sociale.
Oui.
C'est aussi ce qui motivait cette éducation croissante des filles.
Tout à fait. Qui n'a fait que s'accentuer au fil des ans. Puisque je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant ou pas, mais ça c'est une des grandes mutations de la deuxième moitié du XXe siècle, que la réussite scolaire et universitaire.
Ah ben justement, parlez-nous-en un petit peu là, effectivement on est encore dans l'entre-deux-guerres, mais comment est-ce que ça évolue?
Oui, alors après ça va crescendo, c'est-à-dire que tout le monde va à l'école, et de plus en plus de gens vont à l'université. C'est une démocratisation de l'enseignement secondaire et supérieur. Ça, c'est un mouvement de l'ensemble de la société. Dans ce mouvement, les femmes y prennent une part très active, puisque à partir des années 1970, les filles vont égaler, puis dépasser les garçons en termes de réussite au baccalauréat. Depuis ce temps-là, il y a en France plus de bachelières que de bacheliers.
Depuis les années 70.
Quelques années plus tard, dans la même décennie, 70-80, les filles ont dépassé les garçons à l'université. Donc, dans les universités aujourd'hui, il y a plus de filles que de garçons. Les filles, les jeunes femmes sont plus diplômées que les jeunes hommes. Et ça remonte aux années 1970. Donc, ça fait plusieurs décennies, ça fait un demi-siècle. Que les femmes sont plus diplômées, plus instruites que les hommes.
Ce qui pose encore plus de questions sur les inégalités salariales qu'on peut constater aujourd'hui.
Oui, parce que là, du coup, ces inégalités salariales qui demeurent, qui restent incrustées, solidement incrustées, on ne comprend plus. Parce que nous vivons aujourd'hui, et depuis plusieurs décennies, dans un pays où les femmes sont plus instruites et plus diplômées que les hommes. Dans un pays où...
c'est une exception française en Europe ?
Non, c'est pas une exception. La France a été très très en pointe de ce mouvement. Dans la plupart des pays, les filles sont venues égaler les garçons. C'est pas partout qu'elles dépassent en termes de réussite scolaire. Mais enfin, c'est un mouvement qui a prévalu sur toute l'Europe. Mais la France a été très en pointe là-dessus. Ça, c'est vrai.
Et comment on l'explique? Il y a eu une volonté des pouvoirs publics de former davantage les filles?
Je ne sais pas. Former davantage les filles, non, je ne crois pas qu'il y ait eu de politique là-dessus. Mais je pense que l'école et l'université ont été des terrains, comment dire, où les filles pouvaient réussir dans cette compétition-là. Elles réussissaient avec aux garçons. Le problème, c'est que une fois finies leurs études secondaires et ou supérieures, elles arrivent dans le monde du travail et là, patatras, elles ne sont plus les égales.
Donc égalité des chances tout de même au niveau de l'école, mais qui ne se retrouvent pas dans le milieu professionnel.
Non, qui ne se retrouvent pas. Alors même que nous sommes dans un pays où les femmes aujourd'hui représentent près de la moitié de la population active, 48%. Donc elles sont la moitié du monde du travail, elles sont plus instruites que leurs homologues masculins. La plupart d'entre elles, ça aussi c'est une mutation fondamentale, ont des carrières professionnelles continues qui ne s'interrompent plus à l'âge des maternités. Il y a le congé de maternité, mais c'est tout. Auparavant, dans les années 50-60, bon nombre de femmes s'arrêtaient de travailler plusieurs années quand elles avaient des enfants. Ce n'est plus le cas pour la majorité d'entre elles aujourd'hui. Donc,
depuis les années 80...
Depuis les années 80, oui. Mm. Depuis les années 80, ce changement, c'est
on s'arrête le temps de la grossesse, mais on reprend le travail après.
On s'arrête, c'est quelques semaines, le congé de maternité. Donc, sur 40 ans de vie active, c'est... voilà. Non, si vous voulez, il y avait, dans les années 60, 40% des femmes qui... 25 à 49 ans, c'est-à-dire des femmes en âge d'avoir et d'élever des enfants, 40% étaient actives. Aujourd'hui, c'est plus de 80%. Donc là, il y a un vrai, vrai, vrai changement.
On voit bien cette évolution. Mais alors, revenons à notre période d'après Première Guerre mondiale. C'est aussi une période au cours de laquelle les jeunes filles sont de plus en plus fréquemment actives, au moins jusqu'à leur mariage. À ce moment-là, c'est une évolution, surtout au sein de la petite bourgeoisie salariée.
Oui,
Margaret Mahoney.
Oui, tout à fait. C'est une évolution au sein de la petite bourgeoisie que de travailler jusqu'au mariage. Oui.
Et là encore, la difficulté qu'on a, c'est qu'on parle de profession déclarée pour ces femmes qui travaillent jusqu'au mariage, mais qu'en est-il de celles qui ne déclarent pas d'activité mais qui travaillent tout de même?
Mais c'est ça, il reste encore dans cette période-là, beaucoup plus qu'aujourd'hui, toutes ces activités que l'on peut ou pas définir comme professionnelles. Ça peut être activité ménagère et donc qui n'appartient pas au monde du travail tel qu'on le définit ou activité professionnelle reconnue comme telle. Bon, c'est une période qui de ce point de vue-là est très très douteuse, quoi.
C'est une constante, tout comme l'est celle de devoir choisir entre avoir un travail et avoir une vie de famille. On voit qu'il y a une évolution dans cette période d'entre-deux-guerres. La question, elle se pose de plus en plus.
Oui, la question se pose de plus en plus. On voit bien qu'on va vers un changement. Alors, la guerre va complètement bousculer les choses, là encore.
Là, vous parlez de la Deuxième Guerre mondiale.
La Deuxième Guerre mondiale, oui.
Alors, avant d'en venir à la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'il faut peut-être souligner, Margaret Mahoney, c'est cette professionnalisation des femmes qui s'opère tout de même dans des domaines qui sont jugés adaptés aux qualités féminines, comme l'éducation. C'est par exemple toutes les femmes qui deviennent institutrices.
Oui, absolument. Il y a des métiers féminins qui se forment à des métiers féminins qualifiés. Qui commencent à se former. En effet, les institutrices en sont un des exemples les plus frappants.
Et alors pourquoi, comment comprendre justement que les femmes choisissent le métier d'institutrice? Est-ce que c'est parce que ce métier est délaissé par les hommes? C'est ce qu'on dit souvent, les femmes investissent les domaines qui sont délaissés par les hommes.
Je crois que c'est difficile d'en faire une généralité. Je pense que ça se regarde profession par profession. Et je pense que le cas des institutrices, non, je crois pas que ça a été un travail dévalorisé. Les instituteurs à cette période-là, instituteurs et institutrices, c'était quand même,
un statut reconnu,
des notables dans les petits villages et dans les petites villes, c'était ceux qui donnaient l'accès à l'instruction, c'était un statut au contraire, extrêmement valorisé.
Que je disais délaissé par les hommes, pas pour des questions de valorisation, mais peut-être parce que les hommes pouvaient travailler dans les administrations, oui. Là où les femmes n'avaient pas cette possibilité, oui. Pas ce droit-là, tout simplement.
Oui, c'est ça, bien sûr. Il y a eu tout un tas de professions qui n'étaient pas encore possibles pour les femmes et qui l'ont été après la Deuxième Guerre mondiale.
Donc on a parlé du métier d'institutrice, mais c'est aussi dans les années 20 et 30 que se professionnalisent les métiers d'infirmière et d'assistante sociale, alors qu'auparavant c'était des métiers plus liés à des activités de charité, de philanthropie.
Oui, de charité. C'était très lié aussi à la religion. Il y avait, parmi les infirmières, beaucoup venaient des congrégations religieuses. C'était en effet lié à... Comment dire, on ne travaillait pas pour un salaire, on travaillait par don de soi.
Alors que là, il y a des diplômes qui sont créés tout d'un coup, oui. Et qui permettent une véritable reconnaissance.
Une professionnalisation.
Et une professionnalisation à la fois des infirmières et des assistantes sociales, oui. Dans les années 30, 40.
C'est ça.
Ce qu'on peut dire aussi, Margaret Marwani, c'est que l'emploi féminin profite de l'embellie économique des années 20. Mais à la fin des années 20, c'est la crise. Une crise qui va remettre en question le travail des femmes. À ce moment-là, à nouveau, on va poser la question en termes de concurrence entre emploi des hommes et des femmes.
Bien sûr, cette question s'est posée. Mais là, j'ai beaucoup de mal, et nous avons beaucoup de mal à répondre à cette question, parce que, là encore, on ne sait pas exactement quel a été le nombre de chômeurs et le nombre de chômeuses. Parce que les frontières pour les femmes entre le chômage et l'inactivité, elles sont complètement poreuses. Une femme qui ne travaille pas, ça peut être une chômeuse, ça peut être une inactive. Et ça, on n'a pas de données là-dessus.
C'est difficile de parler en termes de statistiques, mais ce dont on peut parler, c'est le fait que des groupes catholiques, à l'époque, militent pour un retour des femmes mariées au foyer.
Oui.
Comment se passe ce mouvement pour ramener les femmes à la maison?
C'est un mouvement qui... Bon, de façon récurrente, il y a eu tout au long du XXe siècle des mouvements comme ça, retour au foyer. Ce qu'on ne sait pas, c'est la réalité de ce retour au foyer. Il y a eu des discours qui souvent étaient des discours en faveur de la maternité, qui étaient des discours natalistes. C'était dans ces années-là, bien sûr, c'était connoté de natalité. Mais quels sont les effets de ça? Ça, on ne saurait pas le dire non plus.
En Allemagne, ça va plus loin, puisque les fonctionnaires mariés sont carrément obligés de démissionner.
Ah oui, non, mais ça, c'est 1933. Ça, c'est c'est le régime nazi. Alors là, c'est une histoire tout à fait particulière. Comment dire? Dès 1933, c'est très frappant. Parmi les premières lois prises par Hitler, il y a eu cette interdiction du travail des femmes fonctionnaires mariées. Elles ont été licenciées. Et il y a eu interdiction du travail des femmes dans de nombreuses professions. Donc c'est un cas un petit peu unique dans l'histoire où il y a une véritable prohibition du travail des femmes.
Mariées.
Et alors ensuite, il y a eu des lois. Il y a eu, dans les années 33-34, il y a eu toute une série de lois qui ont interdit le travail des femmes dans telle profession, telle autre. Ensuite, quand il y a eu les préparatifs de guerre... Là, et c'était tout ça, pardon, était au nom de l'idéologie de la femme et mère allemande. On disait ça comme ça, die Deutsche Frau und Mutter. Donc, c'était au nom de cette idéologie-là qu'il fallait que les femmes ne travaillent pas. Il fallait qu'elles fassent des enfants pour le Reich. Voilà.
Mais ça va être remis en question avec l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, avec l'effort de guerre. Mmh. Et là, on a remis les femmes au travail et pour certaines au travail obligatoire. Donc, c'est une histoire bien compliqué. Et en France, le gouvernement de Vichy s'est pas exactement calé sur cette législation nazie, mais quand même a emprunté beaucoup. Il y a eu des interdictions du travail des femmes sous Vichy, en France. Et alors ça aussi, très difficile à voir, très difficile à dire. Il y a toujours ce blanc pendant les guerres sur les statistiques de population active. Mais il y a eu ces lois et je pense qu'elles ont durablement marqué, pour la France en tout cas, c'est sûr, pour l'Allemagne aussi, elles ont durablement marqué l'après-guerre.
Alors on va revenir sur l'après-guerre, mais l'impression qu'on a, Margaret Marwani, c'est que finalement, d'un côté, l'emploi des femmes permet aux hommes de garder les postes les plus qualifiés en temps de crise, et qu'en même temps, l'emploi des femmes est une variable d'ajustement, finalement assez pratique, et qui peut même être utilisée par les pouvoirs publics en tant que telle.
Alors, tout dépend de la période dans laquelle on se place.
Si on est toujours dans les années 30.
Oui, dans les années 30, oui. Alors, c'est législation, mais c'est pas n'importe quelles années. Ce sont les années du fascisme qui monte. Ce sont
années post-crise.
Voilà. C'est au nom de toute cette idéologie-là, bien sûr.
Et à ce moment-là, l'emploi féminin peut être considéré comme une variable d'ajustement. Ça ne sera pas le cas plus tard, non.
Ça ne sera plus le cas après.
Donc c'était vraiment purement circonstanciel.
Oui, c'était.
Alors,
l'idée que les femmes ont toujours été des sortes de variables d'ajustement, non, c'est pas vrai ça. Il y a eu ponctuellement des moments où on s'en est servi comme tel, mais il y a eu cette idée qui est revenue dans les années 1975 à la faveur d'un choc pétrolier, du début du chômage massif. On s'est dit, il va y avoir retour des femmes au foyer, elles vont rentrer, elles vont laisser la place aux hommes. Rien de tout ça ne s'est passé. Mais à l'époque, tout le monde, tous les économistes, les sociologues, les historiens qui réfléchissaient à cette question se disaient, maintenant, voilà, les femmes entrent sur le marché du travail en période de plein emploi et quand il y a chômage, elles rentrent dans leur foyer. Eh bien non, ce n'est absolument pas ça qui s'est passé. Absolument pas.
On poursuit notre histoire, Margaret Marwani. On arrive à la fin des années 30. parallèlement à tout ce que l'on vient de dire, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander l'égalité au travail. Écoutez cette archive de 1943 dans laquelle on entend la secrétaire de l'Union féminine du Front social du travail, Mademoiselle Trioen.
Nous avons compris que les femmes obligées de quitter le foyer pour participer à la production ne sont pas pour autant déchargées des besoins ménagères et des difficultés du ravitaillement. C'est donc une double tâche qu'elles doivent assumer, tâche lourde, exténuante par les difficultés rencontrées et qui, si elles ne sont pas allégées par un réseau d'organismes et de lois sociales, risque de compromettre gravement la santé des futures mères et par là même l'avenir du pays. D'une manière générale, les femmes touchent pour le même travail un salaire inférieur à celui des hommes. Par un souci de justice, nous demandons à travail égal, salaire égal.
C'est parfaitement normal.
Enfin, la plupart se plaignent de l'état d'esprit qui règne dans les entreprises. Où le patron est antisocial, où il fait un paternalisme dont les travailleuses ont horreur, ou bien, si le patron fait des efforts dans l'intérêt de son personnel, ces efforts sont souvent mal présentés et déformés par un personnel de maîtrise qui s'interpose entre lui et les ouvrières.
La Deuxième Guerre mondiale, Margaret Marouani, est l'occasion pour les femmes qui travaillent de faire entendre leur voix?
Oui, la Deuxième Guerre mondiale est aussi... les femmes y ont été très présentes sur tous les fronts.
Quelles sont les revendications qui émergent à ce moment-là? On a entendu qu'il y a l'apparition, par exemple, de la problématique de la double journée
oui,
pour les femmes.
Oui, la problématique de la double journée, la problématique de l'égalité des salaires, évidemment, l'accès à l'emploi. Je veux dire, beaucoup de choses sont en germe à ce moment-là, oui.
La double journée, peut-être qu'il faut expliquer, c'est le fait que les femmes à la fois travaillent...
professionnellement et font le travail domestique, font l'essentiel du travail domestique, oui.
Et en même temps, ce qu'on a entendu avec cette archive, c'est aussi que les conditions de travail sont de plus en plus dénoncées. Peut-être le sexisme n'est plus accepté de la même façon, même si on ne prononçait pas les choses en ces termes.
Oui, tout à fait. Tout à fait. On a en germe un certain nombre de revendications que l'on va retrouver après.
Early in the morning, she rises. Woman's work is never done. And it's not because she doesn't try. She's fighting a battle with no one on her side. Oh, she rises up in the morning and she works till we pass us. Woman better slow down, well, she's gonna come down hard. She rises. Woman's work is never done.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était Woman's Work de Tracy Chapman et nous continuons notre histoire des femmes au travail. Autre étape, Margaret Marouani. En 1954, l'INSEE sort des statistiques les femmes d'agriculteurs qui ne se déclarent pas elles-mêmes agricultrices, ce qui entraîne une chute du nombre de femmes actives en France. Pourquoi est-ce que cet événement est important?
Mais parce que cet événement a changé, a modifié l'histoire du travail des femmes en France et l'histoire du travail en général. Que s'est-il passé? Jusqu'ici, si l'on regarde le XXe siècle, parce que là ce sont des séries comparables, on toutes les personnes qui vivaient de plus de 14 ans, vivant sur une exploitation agricole, étaient comptées comme agriculteurs, agricultrices. En 1954, l'INSEE décide de ne plus faire comme ça, de ne compter que celles qui se déclarent explicitement agricultrices.
Et sachant que très peu le font.
Oui, très peu le font, parce que c'était une évidence, parce que voilà. Et donc, du coup, avec cette nouvelle définition, 1 200 000 personnes disparaissent de la population active, 1 200 000 personnes, dont 1 million de femmes qui étaient auparavant des agricultrices, et qu'un changement de définition a transformé en inactives qui regardent passer les vaches.
Et alors, quelles conséquences est-ce que cela a ?
Alors, ensuite, les statisticiens ont fait ce qu'ils font régulièrement pour faire des séries longues. Ils ont rétropolé, c'est-à-dire qu'ils ont recalculé le travail des femmes sur toute la première moitié du XXe siècle à partir de la nouvelle définition de 1954. C'est-à-dire qu'ils ont recalculé à la baisse le travail des femmes sur toute la première moitié du XXe siècle. Et donc, de là est née cette légende qui est qu'on a lu partout, que j'ai moi-même écrit avant d'avoir fait ce travail, de cette baisse tendancielle du travail des femmes pendant toute la première moitié du XXe siècle en France. Or, c'est juste un changement de définition et juste un recalcul à la baisse du travail des femmes. Et donc, ça change quand même, parce que cette rupture et ce recalcul diminuent considérablement le poids et l'importance du travail des femmes dans notre pays. Parce que cela signifie que le travail des femmes a fluctué au gré de je ne sais pas quoi, ceci, cela. Or, si l'on fait abstraction, si l'on reconstruit le tableau du travail des femmes sur tout le XXe siècle en gardant les définitions de chaque époque, on se rend compte qu'il y a une très grande constance, que sur toute la première moitié du XXe siècle, les femmes ont toujours constitué le tiers de la population active, point barre. Donc, c'est vrai qu'on est... Ça a l'air d'être très technique ce que je vous dis là, mais c'est bien au-delà de ça, parce que diminuer la part du travail des femmes, c'est pas seulement un choix statistique.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est un choix politique également.
Bien entendu, c'est un choix politique, c'est un choix idéologique. Dire ou ne pas dire l'importance du travail des femmes, ça a du sens.
Et cela alors même que la seconde moitié du XXe siècle, Margaret Mahoney, correspond à une période de croissance sans précédent du travail et de l'emploi des femmes, notamment dans le salariat. C'est à ce moment-là que le salariat explose.
C'est ça, le salariat et le tertiaire. Ce sont ces deux phénomènes qui démarrent dans les années 60, ça démarrait avant, mais qui explosent dans les années 60, pardonnez-moi, mais qui étaient en germe avant. Donc c'est pour ça que, là aussi, c'est faire croire qu'on partait... De très bas avant les années 60. Or, c'est faux. On ne partait pas de très bas dans les années 60. Encore une fois, les femmes travaillaient autant qu'au début du siècle.
Mais ça prend une nouvelle forme qui est le salariat.
Ça prend une nouvelle forme qui est le salariat. Et le salariat, il est aussi dopé par ce qu'on a appelé la tertiarisation, c'est-à-dire le développement des emplois tertiaires dans lequel les femmes vont s'engouffrer. Alors, c'est un mouvement général de la société que le développement des emplois tertiaires, mais les femmes vont s'y engouffrer plus que les hommes.
Et on est dans la seconde moitié des 30 glorieuses, donc dans les années 60 et 70, c'est aussi une période où il y a une forte pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui a joué ?
Bien sûr. Il y a eu besoin de la main-d'œuvre féminine à ce moment-là, et sur des emplois nouvellement créés et qui se trouvaient dans le tertiaire. Les hommes étaient plus dans le secondaire.
Et là encore, il y a une transposition, Margaret Mahoney, au bureau de qualités supposément féminines, la méticulosité, la docilité.
Oui, on retrouve exactement ce qui se passait dans l'industrie pour les ouvrières. On le retrouve dans le tertiaire, dans un certain nombre de métiers, où il est toujours question de leur savoir-faire, de leur agilité, de leur ceci, cela. Toutes choses que l'on ne reconnaît toujours pas comme des qualifications.
Et alors vous disiez que les chocs pétroliers dans les années 70 n'avaient pas entraîné un retour des femmes au foyer, ou du moins qu'on ne pouvait pas le dire. Mais alors quels ont été les effets pour l'emploi des femmes, de la raréfaction des emplois et de l'envolée du chômage à partir des années 80?
Mais écoutez, curieusement, ça n'a pas arrêté le mouvement, l'ascension de la féminisation du monde du travail. Ça n'a pas arrêté l'ascension des taux d'activité des femmes. C'est-à-dire que La progression de la salarisation, la progression de l'activité des femmes a commencé au temps des Trente Glorieuses et elle a continué en dépit de la crise économique, en dépit du chômage massif, en dépit de la pénurie d'emploi, en dépit de tout ça. Ces années-là ont connu une véritable envolée puisque nous sommes passés, je vous le disais tout à l'heure, de les femmes représentaient un tiers de la population active dans les années 60. Aujourd'hui, c'est 48%, la moitié.
Mais ça pose la question de la qualité des emplois. Est-ce qu'il n'y a pas une pauvreté laborieuse qui a explosé à ce moment-là.
Ça c'est autre chose, mais pardonnez-moi de vous interrompre. Je voulais dire deux chiffres pour montrer la différence entre les hommes et les femmes. Les hommes étaient 13 millions à travailler en 1901. Aujourd'hui, ils sont 16 millions. Les femmes étaient 7 millions en 1901, 14 aujourd'hui. Donc vous voyez un petit clapotis du côté des hommes et une lame de fond du côté des femmes.
Et c'est important à souligner en effet, mais peut-être qu'il faut tout de même aussi parler de ces emplois qui se dégradent, de ces emplois féminins qui se dégradent, oui. On pourrait dire cela à partir des années 80, notamment avec le temps partiel qui se développe beaucoup.
Alors, il faut dire plusieurs choses contradictoires. Il faut dire évidemment ça. Il faut dire qu'il y a... Parmi ces femmes qui sont nouvellement arrivées sur le marché du travail, beaucoup d'entre elles arrivent sous le sceau de la déqualification, sous le sceau de l'inégalité toujours, et par le biais du temps partiel, beaucoup d'entre elles connaissent un sous-emploi et une précarité très grande. Ça, c'est absolument vrai, il faut le dire, il faut le redire. Parmi les personnes en sous-emploi, il y a une écrasante majorité de femmes, ce qu'on appelle les working poor, les travailleurs pauvres. Pour l'essentiel, ce sont des femmes, et ça, on oublie d'en parler, c'est la face cachée de la pénurie d'emploi. Et puis les femmes ont été beaucoup plus au chômage que les hommes pendant plusieurs décennies, ce n'est plus le cas maintenant. Mais par ailleurs, vous avez à l'autre bout de l'échelle sociale un certain nombre de femmes qui récupèrent sur le marché du travail ce qu'elles ont réussi dans le système scolaire et universitaire. Elles sont diplômées, elles réussissent, elles ont des postes de travail intéressants, elles font des métiers qui autrefois étaient masculins, elles gagnent bien leur vie, même si elles ne sont pas les égales des hommes, mais elles réussissent. Donc, ce qui s'est passé aussi dans ces années-là, c'est une, moi j'appelle ça une bipolarisation, c'est-à-dire que entre les femmes, les écarts se sont creusés. Entre celles qui réussissent, qui ont un emploi, qui ont un bon salaire, même si on n'est pas à l'égalité, et celles qui naviguent entre petits boulots, emplois précaires, travail à temps partiel et chômage, il y a un monde. L'écart entre hommes et femmes, en termes de salaire, il est resté pur et dur, mais l'écart entre les femmes s'est creusé aussi. Donc, il y a les deux choses.
De façon générale, on peut parler, depuis les années 1960, d'une certaine homogénéisation des comportements d'activité masculins et féminins.
Oui. Oui, on peut parler de ça, évidemment, et ça a été une mutation très très importante, parce que c'est une des choses qui explique aussi la montée de l'activité féminine, c'est que dans les années 50-60, la majorité des femmes s'arrêtaient de travailler lorsqu'elles avaient des enfants, elles s'arrêtaient quelques années, et c'est comme ça qu'on disait, mais elles s'arrêtent de travailler, elles peuvent pas avoir les mêmes carrières, les mêmes salaires que les hommes. Aujourd'hui, ce n'est plus le vrai. Cette évolution-là, elle s'est faite en quelques années, très très vite, dans les années 70-80. Voilà. Aujourd'hui, là, l'écrasante majorité des femmes ne s'arrêtent plus de travailler lorsqu'elles ont des enfants.
Et alors aujourd'hui, quels sont selon vous les enjeux qui demeurent? C'est évidemment une question très vaste et on arrive au terme de cette émission, mais est-ce qu'il faudrait faire mieux respecter justement les lois sur l'égalité salariale avec peut-être plus de sanctions et peut-être que la question des congés parentaux est aussi essentielle?
Il y a toutes ces questions qui sont essentielles et le temps partiel, le travail à temps partiel, tant qu'on ne réglementera pas mieux le travail à temps partiel, on créera du sous-emploi. Parce que les questions qui restent, ok, nous sommes dans un pays où les femmes sont plus diplômées, elles sont la moitié de la population active et 25% d'écart de salaire. Que se passe-t-il donc? Et on a des lois, il y a les directives européennes, et ça bouge à peine. Et par ailleurs, quand on regarde sur les retraites, les écarts de retraite entre hommes et femmes, ils sont encore plus grands que les écarts de salaire.
Donc on voit qu'il y a des choses qui continuent à se creuser malgré les législations qui peuvent exister. Un grand merci à Margaret Marouani. Et c'est l'heure pour nous de retrouver Arjuna Andra pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffany, bonjour à tous.
C'est officiel, l'administration a validé le plan de sauvegarde de l'emploi qui scelle la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort.
Absolument, mais derrière cette novlangue ordinaire du néolibéralisme, il faut entendre fermeture d'usine et licenciement. Car c'est bien ce qui attend une part importante des 850 salariés de l'usine Ford. Selon les syndicats, la moitié des travailleurs seraient en effet licenciés, l'autre moitié placée en pré-retraite et quelques-uns seulement bénéficieraient d'un reclassement dans une autre usine Ford. forte de la région.
Cette décision vient donc acter la fermeture d'un site industriel présent aux portes de Bordeaux depuis plus de 50 ans.
Oui, au début des années 70, la firme américaine cherche à s'implanter en France. Le premier ministre d'alors, Jacques Chaban-Delmas, qui n'est autre que le maire de la ville girondine, fait alors peser la balance en faveur de son territoire et obtient l'installation de Ford à Blanquefort. Le site est ouvert en grande pompe par Henry Ford, président du groupe et petit-fils du fondateur, une trentaine d'années plus tard, à son apogée, l'usine compte près de 3600 salariés, équipant en boîte de vitesse un véhicule sur 5 Ford dans le monde. Mais en 2008, après plusieurs réductions d'effectifs, le groupe américain décide de vendre le site à l'allemand HZ Holding, une reprise qui s'avère un échec et force les Américains à reprendre le contrôle de l'usine en 2010, avant d'annoncer en 2018 qu'ils se séparent définitivement de leur site emblématique. Cette décision n'est donc que l'épilogue d'un feuilleton savamment orchestré par la firme américaine pour se débarrasser de son usine.
Une fermeture d'autant plus incompréhensible, Arjuna, que l'usine de Blanquefort rapportait de l'argent à son entreprise mère.
Oui, mais cette décision de Ford s'ancre en réalité dans une logique bien plus vaste de réduction des coûts du groupe américain, passant par une fermeture rapide de plusieurs de ses sites. Et ce, alors même que le groupe Ford a vu ses bénéfices nets s'envoler de près de 65% en 2017. Des logiques de court-termisme financier encore plus scandaleuses quand on sait que les repreneurs potentiels existaient, au premier rang desquels le belge Punch Powerglide. Celui-ci se proposait de reprendre l'activité de l'usine, permettant ainsi de sauver plus de la moitié des emplois de Blanquefort, une offre que les Américains ont pourtant repoussée d'un revers de main, estimant qu'il n'offrait pas le niveau de sécurité et de protection requis.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a lui-même dénoncé une logique financière destinée uniquement à faire monter le cours de l'entreprise en bourse.
Oui, mais le problème, c'est que derrière les discours, les actions peinent à suivre. Après avoir dénoncé à l'envi l'attitude indigne du constructeur américain, le ministre a finalement déclaré hier que Ford paierait pour la dépollution du site de Blanquefort et que le plan social à venir était généreux et protecteur pour les salariés. Les syndicats estiment de leur côté que cette convention était prévue de longue date et dénoncent l'impuissance volontaire du gouvernement sur cette question.
Aussi, de nombreuses voix à gauche comme à droite se sont fait entendre pour proposer une nationalisation temporaire du site.
Mais oui, une nationalisation qui permettrait de maintenir l'emploi, d'accompagner et de consolider l'activité en attendant de trouver un repreneur. Le ministre de l'économie lui-même estimait en décembre que s'il fallait que l'État fasse la transition, rachète le site pour le revendre ensuite, cela ne lui posait aucune difficulté. Ce dernier a manifestement changé d'avis puisqu'il a expliqué il y a quelques jours que l'État n'avait pas vocation à produire des boîtes de vitesse. Une volonté de préserver la cohérence du portefeuille de l'État qui a pourtant de quoi étonner quand on sait que l'État possède des participations dans des entreprises aussi diverses que Danone qui produit des yaourts, Transdev qui fait rouler des bus ou même la Compagnie des Alpes qui exploite des pistes de ski.
Wang dang doodle straight to you.
On se quitte avec Martha Hayes, The Hardest Working Woman. Merci beaucoup Margaret Marouani de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre livre écrit avec Monique Méron, Un siècle de travail des femmes en France 1901-2011, paru à La Découverte. Demain, on vous propose un tour d'horizon des femmes dans la fiction d'Agnès Varda à Game of Thrones en passant par Chabrol. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. I'm the hardest working woman in town. Some people